Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alozar, Mossy Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédérix. Après avoir évoqué les nouvelles batailles que se livrent les États dans le cyberespace, nous avions notamment évoqué les soupçons de vol et la publication par la Russie de milliers de courriels de responsables démocrates qui, selon l'administration Obama, auraient pesé sur la campagne américaine mais aussi sur son résultat. Nous allons évoquer aujourd'hui le piratage à des fins mercantiles. Ce matin, on va se demander comment des pirates informatiques s'y prennent pour s'emparer de données et pour en tirer des bénéfices. Et quels sont les outils peut-être pour s'en protéger? Du vol de données au ransomware, la naissance d'un modèle économique pour l'interrogation.
Il y a l'Internet standard et puis il y a quelque chose qui s'appelle le Darknet, un système clandestin de sites Internet qui sont introuvables.
Pendant longtemps, tous ceux qui voulaient agir en secret, acheter de la drogue ou des objets volés, trouvaient que c'était très difficile à faire dans le monde réel. Parler du Darknet, c'est évoquer une nouvelle forme de commerce où les identités des acheteurs, des vendeurs et de l'argent lui-même échappent à la police.
Après LinkedIn, c'est à présent MySpace qui décroche le record du site le plus massivement piraté.
El grupo de Internet Yahoo anunció que...
On parle à nouveau de cet immense piratage de données chez Yahoo.
Oui, l'année 2016 aura été particulièrement fructueuse pour les pirates informatiques. Ces derniers mois, de très nombreuses entreprises ont été ciblées. Dropbox, MySpace, LinkedIn, Ashley Madison, mais aussi Yahoo, avec ses 500 millions d'utilisateurs dont les données ont été volées, constituant un nouveau triste record. Les techniques sont diverses, les pratiques semblent se démocratiser. En effet, depuis 2014, le recours des pirates à ce qu'on appelle le ransomware, c'est-à-dire des logiciels qui prennent en otage les données et qui ne les rendent que contre rançon. Ce dispositif s'est considérablement accru. Ils auront été pour l'année passée les programmes les plus malveillants, les plus virulents et promettent de l'être encore pour l'année qui s'ouvre. Ainsi, selon une étude de Kaspersky Lab, une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information, le nombre d'attaques de ce genre a été multiplié par 3 entre janvier et septembre 2016. Alors comment comprendre cette augmentation? La piraterie informatique aurait-elle malheureusement trouvé son modèle économique et quels sont les dégâts causés et comment s'en prémunir? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités avec nous. D'abord, Amaëlle Guiton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur notamment de Hacker au cœur de la révolution numérique, qui était paru aux éditions Au Diable Vauvert. À vos côtés, Éric Delbecq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur du département intelligence stratégique de Sifaris, qui est une société de conseil spécialisée dans le domaine de l'investigation numérique, des audits d'intrusion et des infrastructures et de la sûreté des organisations, et puis président de la CSE, c'est-à-dire l'Association pour la compétitivité et la sécurité économique. Et pour être à peu près complet, j'indique pour les auditeurs que vous êtes auteur de l'intelligence économique pour les nuls, qui était paru aux éditions First l'année dernière. Alors, je vais commencer avec une question un peu générale. Je disais que 2016 avait été une année faste en termes de vol de données. Des millions de comptes ont été piratés. Yahoo, Dailymotion, Dropbox, LinkedIn. Des données récupérées en utilisant évidemment les brèches des systèmes de sécurisation, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous diriez l'un et l'autre que l'année 2016 a constitué une rupture dans l'histoire, qui est encore courte, c'est vrai, mais l'histoire des vols de données informatiques, et à quoi serait due cette rupture? Est-ce que les pirates sont de plus en plus malins? Est-ce qu'il faut aller chercher vers une forme de démocratisation de la pratique du piratage? Ou est-ce que c'est peut-être les entreprises, les particuliers, qui, de par leurs usages, seraient de plus en plus exposés? Rupture ou non, Amaëlle Guiton.
Moi, je parlerai pas forcément de rupture. En tout cas, je l'analyse pas nécessairement comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une évolution continue, effectivement, qui s'explique aussi par le fait qu'il y a tout simplement de plus en plus de données accessibles. Ça, c'est quand même c'est le point de départ. Et donc, effectivement, de plus en plus de données à récupérer, à voler, éventuellement d'ailleurs à revendre, hein, puisqu'on sait que ce sont des données qui s'échangent aussi sur des places de marché noir.
On y reviendra.
Et il y a aussi, effectivement, oui, des formes de démocratisation. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est le développement de ce qu'on appelle le crime as a service, c'est-à-dire le crime en tant que service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter de la capacité d'intrusion, on peut acheter de la capacité à faire ce qu'on appelle des attaques par déni de service, c'est-à-dire pour saturer un site. Donc il y a aussi une économie qui s'est constituée. Ouais. Il n'y a plus seulement d'un côté effectivement la cybercriminalité et de l'autre les victimes. Il y a aussi des clients. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit émerger de plus en plus. Donc rupture, sans doute pas, mais en tout cas
rupture dans la continuité.
Évolution et accélération, oui, probablement.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de professionnalisation d'une offre de services illégaux. Et je crois, d'ailleurs, c'est une expression que j'ai retrouvée aussi sous votre plume. Éric Delbecq, rupture ou pas ?
Oui, je suis d'accord, il y a une évolution qui est qualitative. Mais moi, je ne suis pas certain de croire à l'évolution quantitative. Pour une raison simple, il y a de ça quelques années, je travaillais pour les services de l'État. On avait déjà un petit peu essayé d'enquêter pour connaître, en gros, un ordre d'idée des attaques. Et on avait pu repérer qu'à peu près déjà une entreprise sur deux que l'on interrogeait, en fait, nous cachait un certain nombre de cyberattaques. Mmh. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, je pense aussi... Les organisations commencent un petit peu à se détendre avec cette problématique, ou en tout cas en parler davantage. Donc, c'est comme il y a de ça quelques années quand on parlait de chiffres noirs de la délinquance. Faut pas oublier que nos outils de mesure pour savoir quel est le nombre exact de cyberattaques est quand même fragile. Faut rajouter au fait qu'effectivement beaucoup d'études aujourd'hui paraissent de la part de gens qui vendent des solutions de sécurisation logicielle. Donc, on se doute bien qu'on a bien évidemment des données qui sont pas fausses, mais qui peuvent être un petit peu gonflées par la nature des déclarations qui sont faites ou pas des entreprises.
Alors, vous dites pas d'explosion quantitative. Penchons-nous un tout petit peu sur ce qu'on appelle le ransomware. Alors, j'explique pour les auditeurs, si j'ai bien compris, ce sont des pirates qui se connectent à des systèmes informatiques, soit d'entreprises, soit de particuliers, pour en extraire les données. On les récupère, on les crypte, et puis on ne les rend que contre rançon. L'exemple dont on avait beaucoup parlé l'année dernière, c'était notamment cet hôpital américain dont le système informatique avait été bloqué par des pirates qui ont exigé une rançon. Résultat, l'établissement a versé, je crois, 17 000 $, si mes souvenirs sont bons, pour récupérer justement son système informatique. On parle là, pour le coup, d'une vraie recrudescence. On parle de 50% sur une année. Sur la France et l'Allemagne, c'est encore supérieur. Alors, évidemment, j'entends bien qu'il y a des difficultés à mesurer quand même ces attaques, mais il y a quand même, visiblement, une dynamique très forte. Alors, comment la comprendre ?
Tout simplement parce que, alors effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les chiffres viennent effectivement des entreprises de cybersécurité elles-mêmes, ce qui est une difficulté supplémentaire à évaluer. Mais ceci étant, effectivement, on voit que ça se développe, mais tout simplement parce que c'est extrêmement rentable. Donc là, c'est plus une évolution de la technique. Le principe du ransomware, c'est qu'on peut lancer, entre guillemets, ses filets de manière extrêmement large, et que il y a toujours des gens qui mordront, parce qu'il y a énormément de gens qui sont encore trop peu prudents qui cliquent sur des liens dans des mails alors qu'il faudrait pas, qui ouvrent des pièces jointes alors qu'il faudrait pas, etc. Et donc donc le retour sur investissement, si je puis dire, est extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que ça se développe. C'est tout simplement parce que c'est peu coûteux à mettre en place, mais que ça peut rapporter beaucoup, et y compris d'ailleurs c'est un phénomène alors là qui touche de manière assez large. Hein, c'est-à-dire ça peut être aussi bien le particulier que la PME, que effectivement dans certains cas les hôpitaux. Pour un particulier, la rançon sera pas forcément très élevée, mais c'est vrai que quand on n'a pas pensé à faire une sauvegarde de ses données, on va plutôt la payer. D'ailleurs, il me semble qu'à une époque, la consigne plus ou moins officieuse du FBI était de dire aux gens, voilà, écoutez, on peut pas tellement faire grand-chose pour vous, donc on va plutôt vous conseiller de payer. Et donc, du coup, effectivement, c'est tout simplement parce que c'est une activité qui est extrêmement lucrative et qui est assez peu complexe.
Et d'ailleurs, souvent, ils payent. On a une récente étude d'IBM Sécurité qui indique que près de 70% des entreprises victimes de ransomware payent les hackers. Ouais. Pour récupérer leurs données. Donc en fait, les entreprises et les particuliers préfèrent payer. Éric Delbecq.
Il faut voir aussi qu'il y a un très grand fossé.
Ce qui explique l'efficacité, du procédé aussi.
Oui, oui, tout à fait. Il y a un très grand fossé entre la sensibilisation et la culture de la cybersécurité dans les organisations et les assaillants. C'est-à-dire, c'est pas non plus qu'on a des gens qui sont de plus en plus offensifs, ténueux, et pointu, il y en a qui le sont effectivement, mais ils ont effectivement la capacité à lancer des filets auxquels beaucoup de gens vont répondre assez naïvement, parce que dans les entreprises, j'ai encore vu le cas ces derniers mois, vous avez une absence de formation sur ces questions d'ensemble des salariés, vous avez parfois des chartes, des usages informatiques qui sont un petit peu bancales, vous avez des très grands dirigeants d'entreprises qui estiment que c'est une problématique subordonnée et qui ne relève pas de leur niveau, donc parfois on a des patrons de PME d'ailleurs qui pour le coup vont être plus sensibles mais qui ne sont pas techniquement avertis, donc la culture des usages numérique, avec Nicolas Arpajon, on a pris l'habitude de parler de ça, elle pose problème. Si on avait des gens qui étaient beaucoup plus sensibilisés à ces questions, on n'aurait pas non plus le même taux de réussite, parce que parfois c'est les techniques de base qui réussissent, c'est pas toujours les plus compliquées. Et regardez, il y a un exemple.
Oui, par ailleurs, le ransomware, c'est pas très difficile, d'autant qu'on peut louer en réalité des logiciels, donc on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste.
Oui, mais regardez,
pour pouvoir le faire.
Regardez tout ce qu'on peut raconter sur la fraude au président. Et que souvent, la capacité qu'on a à appeler quelqu'un dans une entreprise, à se faire passer pour qui on n'est pas, comment ça peut marcher? Donc faut bien se dire que c'est pas toujours parce qu'on a affaire à des geeks de folie, comme disent les jeunes, que ça fonctionne. C'est aussi parce que des fois, on a des collaborateurs qui n'ont pas été suffisamment sensibilisés. C'est une vraie problématique, la cyber, mais son premier volet, c'est sensibiliser les usagers dans les entreprises, on n'y est pas encore.
On va revenir sur ces questions des moyens qui sont développés ou du manque de moyens développés par les entreprises. Mais Amel Guiton parlait de ce que ça rapporte. Est-ce qu'on a une idée de ce que... Prenons le ransomware. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça rapporte aux gens qui l'utilisent?
C'est très compliqué de se faire un ordre d'idée de ce que ça peut rapporter et à qui, parce que il faut bien voir aussi que ce qu'on, moi je suis assez réservé sur la notion même de hacker qui me paraît tellement globale, qui rassemble des publics très différents. Mais quelqu'un qui va interfacer et qui va obtenir ou pirater des informations, après lui-même va les revendre, donc il y a cette personne-là qui se fait payer, il y a la personne qui les recueille et qui elle va en faire un usage qui parfois est indirect, donc le chiffrage de ça, c'est impossible à faire, mais bien évidemment que c'est des milliards. En caractère...
Des milliards, d'accord. Parce que moi, les fourchettes que j'ai vues, c'est 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars, mais ça n'allait pas au-delà.
Vous moi, je pense aux effets induits, parce que la question qu'on ne pose pas suffisamment, c'est qu'est-ce que permet cette information? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec cette information? Quand des grands groupes sont victimes d'opérations... Je mets les pieds dans le plat tout de suite, parce qu'on a beaucoup parlé avec les Russes de cette question-là ces derniers temps. Il faut quand même savoir que nos camarades américains ont quand même été les premiers à se servir du cybermonde pour casser un certain nombre de nos entreprises et faire du piratage économique. Imaginez si certaines offensives sont articulées sur un moyen cyber dans la lutte, par exemple, entre des groupes américains et des groupes européens. Imaginez ce que ça peut rapporter à un groupe d'avoir fait en sorte, par exemple, qu'un groupe européen n'ait pas tel ou tel contrat. Donc là, je pense que sur l'évaluation de tout ça, aujourd'hui, on fait ça à la SERP.
Amael Guiton, je vais revenir sur ma question centrale pour cette émission de ce matin. Est-ce que la multiplication des actes de piraterie, est-ce que les montants qui sont concernés, c'est-à-dire plusieurs milliards de dollars, même si une fois encore c'est très difficile de mesurer, surtout qu'évidemment il y a une réalité qui est extrêmement diverse, mais est-ce qu'on a là l'émergence d'un modèle économique fiable, viable, bien qu'illégal bien sûr, mais est-ce qu'on a ça qui est en train de naître là?
C'est finalement l'extension au cyberespace de modèles de criminalité. Enfin, moi, je vois pas forcément de différence de nature, c'est-à-dire ça n'est jamais qu'un nouveau moyen, y compris dans toute son ampleur. Hein, c'est ce que disait Eric Delbecq. Enfin, c'est vrai quand on parle de piratage informatique.
La grosse différence, c'est quand même que la prise de risque n'est pas tout à fait la même.
Hein. Ça va du pirate du coin, effectivement, qui n'a pas forcément d'ailleurs de capacité technique extrêmement développée, hein, à des attaques effectivement menées par des États, et on sait que ça se fait. Alors ça peut être à vocation politique, comme on l'a vu ces derniers temps. Ça peut être aussi à vocation économique, parce que l'espionnage économique effectivement se pratique depuis très longtemps. Donc c'est très large. Alors oui, effectivement, oui, bien
sûr. Moi, je vois une différence. Oui, c'est la question. Vous parlez de crime. Le ransomware, c'est pas considéré comme un crime. C'est en train de le devenir. Effectivement, depuis le 1er janvier de cette année, en Californie, et seulement en Californie, l'infection d'un ordinateur par un ransomware, c'est une forme d'extorsion et donc c'est punissable en tant que tel. Mais c'est une évolution législative à la marge.
Oui, mais de manière générale, enfin moi j'ai quand même l'impression que on parle de quoi? On parle d'extorsion, on parle de fraude, on parle de vol d'identité. Enfin, c'est des choses qu'on, d'une certaine manière, qu'on connaît déjà, mais qui se reconfigurent, parce qu'effectivement une des grandes problématiques des vols de données, c'est la possibilité effectivement de l'usurpation d'identité, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'échange. Donc peut-être que oui, sans doute que ça change d'échelle, sans doute aussi que ça s'automatise, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on pirate une base de données d'un gros service américain, on a accès, on parle effectivement en centaines de millions d'utilisateurs, donc tout de suite, voilà, ça prend une ampleur énorme. Mais oui, enfin, pour moi, c'est plus une évolution que véritablement quelque chose de nouveau.
Éric Delbecq, à la fois sur cette criminalisation progressive peut-être de ce genre de délit qui peut-être viendra dans les mois, dans les années qui viennent, et puis sur cette idée de l'émergence ou non d'un modèle économique.
Encore une fois, moi je vais repartir de cette base parce que je suis aussi convaincu de cela. La cybersécurité, ça n'est pas un nouveau champ de la criminalité, ça n'est pas une nouvelle matière, c'est l'adaptation de, et notamment des très grandes organisations criminelles aussi, au XXIe siècle. De la même manière que les premières à avoir profité de la mondialisation dans ses aspects sauvages, c'est les organisations criminelles qui ont été les premières organisations totalement accros à pratiquer le libéralisme le plus intense, eh bien, les organisations criminelles, c'est celles qui se sont saisies aussi le plus facilement de ces outils du monde cyber. C'est-à-dire, on a un grand clivage dans ce monde-là entre ceux qui, dans le cybermonde, voient une opportunité de construire des lendemains meilleurs, et puis une autre frange de gens qui ont très bien compris que c'était aussi le lieu de toutes les extorsions, de tous les vols, de toutes les prédations. Alors bien évidemment qu'on va aller de plus en plus vers un encadrement sévère du cybercrime, et quand je dis de l'encadrement, c'est aussi de rendre les organisations et surtout les très grandes, à partir de janvier, l'ANSSI a rendu a construit toute une législation assez contraignante pour les OIV, les opérateurs d'importance vitale, pour se protéger. Et si elles ne font pas cela, il y a une pénalisation également. Donc c'est pas uniquement la pénalisation vis-à-vis des criminels, mais vis-à-vis des organisations qui font pas le nécessaire pour s'en protéger. Donc oui, on va accroître le cadre, aussi bien en répression qu'en protection. Mais encore une fois, je pense que ça induirait un biais de raisonnement tout à fait défavorable de penser qu'il y a quelque chose qui s'appelle la cyber et qui est dérogatoire, alors que c'est d'abord et fondamentalement un outil. Pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour les États.
Combien est-ce que les entreprises dépensent aujourd'hui pour sécuriser leur réseau informatique?
C'est très variable. C'est très variable, ça dépend de la taille de l'entreprise. Effectivement, si vous êtes PME ou un grand groupe, donc ça va aller de quelques euros à plusieurs millions d'euros. Donc vous n'avez pas de fourchette médiane.
Et sur quoi est-ce qu'on mise? Sur les logiciels de sécurisation? Sur les formations, justement,
Les formations, on mise quasiment rien.
Quasiment rien. Alors que c'est l'essentiel. Souvent, les experts nous disent que la principale faille, elle se situe entre la chaise et le clavier.
Bien sûr. Mais en fait, c'est assez rigolo. Dans le passé, moi, j'ai eu l'occasion de constater qu'on envoyait se faire former des DSI. Bon, mais aujourd'hui, il faut qu'ils aient un processus de formation continue et d'amélioration. Mais c'est pas un DSI aujourd'hui qu'il faut former. C'est des salariés dans les entreprises qui, ni de près ni de loin, ne sont familiers avec ça et qui estiment que déjà le langage geek, ils y comprennent rien. Et puis, de toute façon, l'ordinateur, c'est déjà une machine quand même vaguement hostile. Donc, quand tu as parlé de cybersécurité, si vous voulez, on est quand même un peu loin. Donc, les gens qui devraient être formés ne le sont pas.
Amel Guiton.
Oui, non, mais effectivement, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, elle a pour mission de protéger les infrastructures de l'État et, donc, comme vous le disiez, celles des entreprises vraiment stratégiques. Alors, ça va être dans les transports, ça va être dans l'industrie, etc. Mais c'est vrai qu'on a tout le champ des petites entreprises, notamment, où, en général, c'est là que ça pêche et c'est souvent là que ça fait des dégâts. Peut-être même, d'ailleurs, plus que chez l'utilisateur lambda, parce que effectivement c'est probablement plus intéressant pour un attaquant. Et oui, alors l'ANSSI sensibilise, elle fait des guides notamment, mais c'est vrai qu'il manque encore
l'ANSSI,
cette culture, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Merci.
Mais c'est vrai qu'il manque encore cette culture. C'est le patron de l'ANSSI d'ailleurs qui parle de développer une saine paranoïa. Voilà, c'est partir du principe que oui, effectivement, à partir du moment où on est connecté, il y a un risque, qu'en même temps, il ne faut pas non plus en faire des montagnes, parce qu'en prenant un certain nombre de précautions minimales, on peut quand même se prémunir de l'essentiel, et notamment, enfin, on parlait tout à l'heure, on a longuement parlé du ransomware. La première prévention contre le ransomware, c'est de sauvegarder régulièrement ces données. Bon, parce que si, du coup, elles sont, entre guillemets, prises en otage, si on en a une sauvegarde, on n'a pas besoin de payer une rançon. Donc, c'est vrai que c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre à développer chez les utilisateurs, et effectivement, pas seulement chez ceux qui s'occupent de la sécurité des entreprises elles-mêmes.
Combien ça pourrait coûter, Éric Delbecq? Regarde, en prenant un cas concret, la grande nouveauté, je crois, ces derniers mois, c'est les données personnelles de santé qui sont particulièrement convoitées par les hackers. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, avec cet hôpital américain. C'est devenu vraiment la nouvelle cible. Les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques, qui gèrent ces données de santé, font désormais l'objet d'attaques privilégiées. D'ailleurs, du côté des États-Unis, on a maintenant une loi qui oblige les établissements liés à la santé à déclarer leurs failles auprès du ministère de la Santé. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis de savoir que sur les seuls mois de mars, avril et mai aux États-Unis, il y a 1 million de dossiers médicaux. 1 million de dossiers médicaux qui ont été corrompus. Il va donc falloir protéger tout ça. Ça va coûter combien? Parce que c'est un surcoût, ça.
Oui, mais enfin, encore une fois, on peut pas faire des chiffres à la louche, mais
chiffres pas à la louche. Un fichier volé, corrompu, etc., c'est en moyenne $355 de coût pour l'établissement concerné.
Ah oui, non, mais ça, ce que je veux dire, c'est que la protection. Enfin, moi, je me refuse à faire des chiffrages parce que là aussi, ça fait partie de la problématique. Mmh. Il faut faire un audit, il faut faire une évaluation avant de dire telle chose va coûter tant. Je signale quand même, à titre personnel, le premier cas de piratage ou de menace sur des dossiers concernant le secteur de la santé, moi je l'ai connu en 2010. Donc vous voyez, aujourd'hui, on met l'accent sur ces questions parce qu'elles nous sont devenues plus familières. Mais les premiers cas, ça fait des années qu'on les connaît. Si, précisément avec Nicolas Arpajon, on a commencé à travailler sur ces questions en 2009, vous voyez, c'était pas simplement parce qu'on avait envie de faire un truc en anticipation, c'est parce que dès l'époque, on commençait à voir apparaître des dossiers, et y compris dans la santé, voire même aussi dans la grande distribution. Enfin, tous les segments industriels étaient touchés, on parle même pas de la défense, de l'aéronautique, des industries de sécurité. Donc, vraiment, il faut en revenir sur la nouveauté du phénomène. Un, on en parle plus facilement. Et deux, on en voit mieux les conséquences aujourd'hui parce qu'on commence à se dire à quoi ça peut donner lieu. Et puis parce que aussi les usages numériques se sont tellement démocratisés que quand vous avez, aujourd'hui, on utilise bien évidemment du matériel mobile, vous allez pianoter sur votre téléphone portable, sur votre tablette. Bon, la connexion entre l'ensemble de ces informations, l'usage qui en est fait, la manière dont c'est rerouté vers on ne sait combien d'applications, fait que ça pose des problèmes de plus en plus induits. Mais c'est ça qui est au cœur de notre problématique. Et encore une fois, on ne peut pas chiffrer, notamment pour une organisation, ce que ça demande en matière de protection, parce que ça doit faire l'objet au cas par cas d'une évaluation. Mmh. Après qu'un fichier, ça coûte tant, etc. Sans doute. Donc mais dans une PME, vous pouvez commencer à faire de la sensibilisation et à protéger votre organisation pour quelques milliers d'euros. Parce que, encore une fois, revenons aussi à des entreprises dans lesquelles il n'y a pas 10 000 salariés. Mmh.
Amel Guitton.
C'est là pour le coup, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Oui, je suis effectivement
sur la question de la loi. Ouais. Est-ce qu'il faut aller vers une loi qui oblige les entreprises à communiquer sur des dossiers qui leur auraient été volés, corrompus, etc. Comme le font les États-Unis désormais.
Ah, c'est vrai que c'est toujours compliqué cette question-là de à quel moment effectivement on rend la chose obligatoire. C'est pour les entreprises, pour les opérateurs d'importance vitale. Effectivement, ils ont déjà des obligations à la fois en termes de protection et puis effectivement de faire remonter les informations. Sans doute qu'il faut se poser la question parce que souvent, alors ceci étant, je suis assez d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui les entreprises ont tendance à plus communiquer sur ces questions-là, parce que effectivement, peut-être que entre guillemets, c'est moins honteux finalement, mais elles le font souvent avec un temps de retard. Ça, quand on en parle avec les services qui sont effectivement chargés des enquêtes hein, sur ces dossiers-là, c'est souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont ils sont pas avertis immédiatement quoi. Et donc des fois ils arrivent et l'entreprise peut avoir y compris essayé de boucher la faille au moment où elle la découvre. Et donc quand les services enquêteurs arrivent, il leur manque des éléments pour enquêter. Parce que du coup, il y a des preuves qui peuvent avoir disparu, ce qui est un peu un problème aussi.
Ouais. Éric Delbecq.
Il y a un point majeur qui va beaucoup jouer dans la communication des entreprises sur cette question, c'est que maintenant, des consommateurs, des utilisateurs, des partenaires peuvent judiciairement se retourner contre l'entreprise si elle n'a pas le fait nécessaire et qu'elle n'a pas prévenu, parce que ça peut porter préjudice. Regardez ce qui est en train de se construire vis-à-vis de Yahoo, hein, où on voit des embryons de recours collectifs, de gens qui vont dire, mais alors, ça fait des années, un an, deux ans, trois ans que vous faites pirater des données, vous ne le dites pas et vous compromettez les informations qu'on vous livre. Donc ça va bien évidemment jouer dans un peu plus de transparence sur les cyberoffensives.
On va venir dans un instant à cette question du dark web, avec effectivement toutes les paradoxes, toutes les contradictions qu'on peut retrouver dans cet espace-là et l'utilisation qui en est fait. Mais il y a aussi un autre domaine, on parlait de la santé, il y a un autre domaine aussi qui provoque des inquiétudes, c'est la domotique, c'est l'internet des objets. Il y a de plus en plus d'objets connectés à internet qu'on utilise dans la vie du quotidien. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça fait déjà l'objet d'inquiétude chez les experts, mais on nous dit qu'il y aura d'ici 2020, quelques 20 milliards d'objets connectés dans le monde. Or, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la question de la sécurisation de ces objets-là soit essentielle pour les entreprises qui en développent. Donc ça, ça va être aussi un défi pour les années qui viennent.
Alors, ça dépend de quels objets on parle. C'est-à-dire que il y a deux secteurs quand même dans lesquels on se pose vraiment la question, et où y compris, d'ailleurs, il y a des avancées, hein, même si c'est peut-être pas suffisant. C'est l'automobile et les dispositifs médicaux. Et notamment, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que les entreprises américaines qui font de la voiture connectée et bientôt autonome lance des, entre guillemets, des primes aux failles. C'est-à-dire, ils demandent aux experts de trouver des failles. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on voit de temps en temps des articles sur une équipe de hackers chinois a piraté une Tesla.
Voilà, on en a parlé hier.
Ce qui est en réalité plutôt rassurant, parce que donc ce sont des chercheurs en cybersécurité qui ont réussi à trouver une faille, qui l'ont fait remonter à Tesla, mais qui la publient une fois qu'elle est corrigée. Et donc, moi, je trouve que c'est en réalité plutôt bon signe de voir ce genre de choses se développer. Mais en tout cas, voilà, dans l'automobile, ça commence à se faire. Dans les dispositifs médicaux aussi. Après, la vraie question, effectivement, et c'est là que c'est un véritable souci, c'est pour tous les objets de consommation très courante, sur lesquels il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de certification particulière, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, typiquement, donc ces attaques par déni de service, hein, qui visent à saturer des serveurs et qui enrôlent des caméras connectées, par exemple. C'est typiquement ce qui est arrivé à l'hébergeur, qui est le numéro 1 européen, OVH. D'ailleurs, OVH, qui a subi une attaque très massive. Et c'était des, entre guillemets, des caméras zombies, pour une raison toute simple. C'est que quand on l'achète et qu'on la branche, il y a un nom d'utilisateur par défaut, un mot de passe par défaut. On ne vous demande pas de le changer. Et donc, évidemment, on peut comme ça se connecter à des tas de caméras, automatiser le processus et les lancer à l'assaut d'un serveur. Et effectivement, s'il n'y a aucune réflexion là-dessus, on va être amené à voir ce genre de choses se développer, pas seulement d'ailleurs avec des caméras, pourquoi pas des frigos, des babyphones. Enfin, c'était typiquement le genre de choses dont on a parlé aussi à l'occasion d'une autre attaque de ce type en novembre.
Eric Delbecq, sur ces objets connectés, c'est déjà des piratages répandus, les piratages sur les objets connectés?
En tout cas, c'est l'inquiétude montante. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, il y a des objets, bon, vous avez quand même peu de chances d'être agressé demain matin par votre frigo.
Ou votre babyphone.
Voilà, mais dans le domaine automobile, avec les voitures entre guillemets autonomes ou dans d'autres segments, on voit bien les difficultés que ça peut poser. Mais dans tous les objets que nous utilisons tout à l'heure, on parlait déjà du téléphone portable, cette préoccupation, elle est déjà là. Là, pour le coup, il faut plutôt parler des services de renseignement. Mais aujourd'hui, vous pouvez être écouté à partir de votre téléphone portable. Donc, cette préoccupation, elle existe déjà. Et il y a vraiment, là, pour le coup, il y a des techniques relativement pointues.
Alors, donc, parlons justement des services de renseignement, Eric Delbecq, si vous voulez bien. Europol, European Police Office. Donc, l'office de police criminelle chargé de faciliter l'échange de renseignements entre police nationale en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale à l'échelle de l'Union européenne. Il y a quelques jours, Europol a procédé à l'arrestation de 34 personnes accusées d'avoir réalisé des attaques par déni de services distribués, ce que vous décriviez, qui ont pour but finalement de rendre indisponible un service. Oui. C'est ça l'idée. Quand on regarde les profils, on a des jeunes gens qui ont une vingtaine d'années à peine. On n'a pas l'impression qu'il s'agit de terribles criminels, précisément. J'ai très bien vu votre tête, Amel Guiton, donc je vais vous faire réagir. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ce coup de filet? Et puis, plus généralement, quel bilan est-ce qu'on peut dresser de l'action d'Europol dans le domaine de la lutte contre la cyber cybercriminalité. Amaël Guiton.
Alors ça, pour le coup, le bilan de l'action d'Europol, je pense qu'Éric Delbecq connaîtra ça mieux que moi.
Sur le coup de filet.
Bon, alors d'abord, ça montre que, contrairement à une idée très répandue, les services de police et de renseignement ne sont pas totalement démunis de moyens dans le cyberespace, hein, parce que c'est souvent le discours dominant que, comme il y a de plus en plus de cryptographie, d'anonymisation, etc., il n'y aurait plus du tout de moyens. Bon, ça ne facilite pas les enquêtes, hein, évidemment, mais il y a quand même moyen de remonter. Mais bon, là, voilà, on est typiquement dans l'exemple de à quel point, finalement, ces pratiques qui peuvent être plus ou moins délictueuses concernent énormément de monde. C'est pour ça que moi, je suis d'ailleurs toujours gênée, vous le disiez tout à l'heure, donc je vais rebondir dessus, mais par le terme hacker, parce que historiquement, la culture hacker, c'est tout autre chose.
Oui, c'est des gens qui... C'est pour ça qu'on a parlé de pirates.
Voilà,
hein, vous avez
qui bidouillent du code, qui testent des trucs. Alors effectivement, dans les années 90, ces gens-là cherchaient des trous dans les réseaux.
Mais pas forcément à des fins criminelles.
Et puis souvent avec d'ailleurs une idée de la performance. Bon, là, on est dans autre chose. C'est pour ça que moi, je préfère parler de cybercriminalité, de piratage informatique, qui sont au moins des termes plus précis que ce terme de hacker qui est très plastique et qu'on associe souvent à la criminalité, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est aujourd'hui l'attaque par déni de service. Ça peut être fait par absolument n'importe qui, mais y compris parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'achète. Donc effectivement, on a un arc extrêmement large. Après, il faut pas non plus se tromper, c'est-à-dire que derrière les organisations, les cybermafias, etc., on n'a pas ce type de profil.
Éric Delbecq.
Oui, moi je pense.
À la fois sur le coup de filet, est-ce que il faut y voir, pardon de vous couper, mais je relance un peu. Est-ce qu'il faut y voir peut-être le désir d'Europol de mettre un grand coup sur un type de délit, disons, qui s'est banalisé, qui s'est démocratisé, etc., à travers les profils qu'on a vus là dans cette arrestation, et puis plus globalement l'action d'Europol.
Non, moi je crois qu'il faut pas surestimer ce coup de filet d'Europol. Déjà, je crois d'ailleurs que Nicolas Arpajon en parlait hier. Europol, c'est pas une espèce de structure de commandement ou de super organe, d'agence européenne de lutte contre ces questions. Hein, c'est des services d'interfaçage. Donc, il faudrait plutôt aller voir dans les États ce qui peut se réaliser. On a une assez forte compétence en France dans le domaine de la cybersécurité, dans la police et la gendarmerie, notamment dans la gendarmerie où il y a de très bons experts. Régulièrement, ils travaillent dessus. Régulièrement, ils obtiennent de très bons résultats. Effectivement, le plus grand obstacle à la lutte contre le hacker, moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on pourrait avoir une longue discussion là-dessus. Moi, je crois aux cyberpirates. Mmh. Ça existe. Mais justement, les profils étant tellement différents, les services enquêteurs, ils vont travailler sur des affaires dans lesquelles il y aura des profils particuliers. Ils ne peuvent pas travailler en soi contre les cyberpirates, ça ne veut rien dire. Il y a des dossiers, on travaille sur ces dossiers, on essaie d'ailleurs d'avoir des moyens techniques et juridiques qui soient appropriés à cette forme de criminalité, parce que je vous signale qu'il y a encore quelques années, on ne pouvait pas accuser quelqu'un d'avoir dérobé un fichier informatique à partir du moment où il en faisait simplement une copie, parce qu'on ne pouvait pas matérialiser l'idée qu'il y avait un vol. Donc ça a été une vraie question. Donc il faut effectivement s'adapter aussi à ces questions-là. Donc ne pas surestimer ce genre de coup de filet. Oui, on a les moyens et oui, le problème est ailleurs. La question, c'est où on doit taper en premier et comment on va profiler les assaillants.
On est dans cette semaine consacrée à la piraterie aujourd'hui du vol de données au ransomware, la naissance d'un modèle économique. C'est notre sujet ce matin avec Éric Delbecq et Amaël Guiton.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va poursuivre et nous intéresser à la question du Brexit. Le 23 juin dernier, les Britanniques ont choisi à 52% contre 48% de quitter l'Union européenne lors d'un référendum, on s'en souvient, décidé par l'ancien Premier ministre David Cameron, depuis remplacé par Theresa May. La nouvelle chef du gouvernement devra utiliser donc l'article 50 lui permettant d'enclencher la sortie, même s'il reste encore beaucoup d'incertitudes sur les modalités de cette sortie. Quelles conséquences le Brexit pourrait avoir sur la question de la cybersécurité ? Bonjour Daniel Ventre.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur d'études au CNRS, chargé de cours à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Les conséquences à attendre en matière de cybersécurité, elles sont multiples. D'abord sur le plan de l'industrie, sur le plan du renseignement, sur le plan de la recherche. D'abord du point de vue économique, disons. Vous dites qu'il y aurait probablement pas des conséquences économiques extraordinaires dans le domaine de la cybersécurité. On est déjà dans un marché très fragmenté, dites-vous, avec 27 marchés distincts. Donc l'industrie de la cybersécurité, elle ne va pas être profondément bouleversée par ce Brexit. C'est ce que vous dites, Daniel Vente.
Oui, c'est ce que j'ai dit, ce que je disais d'ailleurs dans un article publié vers juillet 2016 d'ailleurs. Et donc sur ces questions-là, il était très difficile d'avoir une idée assez précise à l'instant T. Je pense que, comme tous les points d'ailleurs qu'on pourra évoquer par la suite, qu'il s'agit des politiques nationales, qu'il s'agit des statistiques sur la cybercriminalité elle-même, de coopération nationale ou internationale, il faudra attendre pas mal de temps, je dirais plusieurs mois, voire 2-3 ans, pour avoir un retour réel de l'impact que pourrait avoir le Brexit sur ces questions de gestion de la cybersécurité au sens large et de lutte contre la cybercriminalité en particulier. Donc sur le plan industriel, je dirais qu'il est assez difficile d'avoir une lecture immédiate de la chose. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, le Royaume-Uni, dans sa politique actuelle, a inscrit quand même une volonté de maintenir une industrie forte de cybersécurité, avec la création de nouveaux hubs de recherche-développement qui viendront appuyer une industrie spécifique de la cybersécurité. Ils veulent faire du sud-ouest du Royaume-Uni un centre d'excellence en cybersécurité. Donc il y a quand même une politique industrielle qui est quand même axée sur la cybersécurité, qui laisse penser que dans les mois et années à venir, il va pas vraiment y avoir de gros chamboulements en matière d'industrie au Royaume-Uni.
Oui, et puis cette politique industrielle britannique, pardon de vous couper, elle n'est pas spécifiquement dirigée du point de vue géographique vers l'Europe. Il y a d'autres zones géographiques qui sont peut-être plus importantes, je pense aux États-Unis, à la Chine ou encore au Japon. La question du renseignement, Daniel Ventre, est-ce que le Brexit va modifier la manière dont est organisée aujourd'hui la lutte contre la cybercriminalité en Grande-Bretagne, et si c'est le cas, en quoi ?
Oui, alors la lutte contre la cybercriminalité, d'ailleurs, ne relève pas uniquement de questions de renseignement, bien sûr. Je dirais que il s'agit de mettre en place des questions juridiques, enfin un corps juridique, de la loi, des questions de police, des questions bien sûr de renseignement, mais pas uniquement. Et je dirais que jusqu'à maintenant, ça fonctionnait sur le mode bilatéral essentiellement, plutôt que des coordinations européennes larges et centralisées depuis Bruxelles. Donc je pense que ça va perdurer aussi sur ce mode-là du bilatéral. Bien sûr, le Royaume-Uni a des partenaires privilégiés, on citera bien sûr les États-Unis, mais continue à faire de la zone Europe, malgré tout, un partenariat stratégique et vital. Donc là, de la même manière, à court terme, il est très difficile d'avoir une vision assez claire de la chose. Voilà ce que je pourrais dire sur la question du renseignement.
Vous dites que c'est essentiellement une approche bilatérale, mais il y a aussi des choses qui sont des dispositifs qui sont mis en place du point de vue multilatéral. Regardez l'année dernière, en février 2016, l'Union européenne et l'OTAN, cette fois, ont signé un accord de partenariat pour le partage d'informations dans le domaine de la cybersécurité entre l'entité qui dépend de l'OTAN et l'entité qui dépend de l'Union européenne. Alors, est-ce que le départ de la Grande-Bretagne va modifier précisément les liens entre l'Europe, cette fois, et l'OTAN, et donc les États-Unis sur cet échange d'informations sur le volet de la cybersécurité?
Oui, je crois qu'il y a là aussi encore un petit peu tôt pour avoir une idée précise. Le Royaume-Uni n'a pas encore définitivement non plus quitté l'Europe pour le moment, donc c'est un processus en cours. Donc toutes les institutions sont en phase de rediscussion, les rapports de force se réétablissent. Ça dépend pas uniquement ces accords bilatéraux et ces partenariats. Bon, vous évoquez l'OTAN, ça prend en compte des considérations qui sont beaucoup plus larges, internationales, que uniquement Europe et Royaume-Uni ou France Royaume-Uni. Il y a d'autres conséquences qui vont avoir des impacts là-dessus. Parlant des résultats des élections présidentielles aux États-Unis, des rééquilibrages des rapports de force entre la Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis, etc. Donc ça peut chambouler pas mal de choses, des rapports de force. C'était des choses que l'on pouvait penser il y a 6 mois, 1 an, pourraient être revisitées dans les mois à venir. Et puis là, vous évoquez les questions de défense de l'OTAN. On sort un petit peu des questions strictes de cybersécurité. On est plutôt dans la question de cyberdéfense. Et par cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité n'est pas dépendante des politiques de l'OTAN.
Éric Delbecq, Amel Guiton, réaction. Vous restez avec nous, Daniel Ventre. J'ai encore une ou deux questions à vous poser. Éric Delbecq.
Oui, je crois que ce que dit Daniel Ventre est important sur la distinction entre cyberdéfense et cyberguerre et cybercriminalité. les grandes puissances dans les échanges d'informations sont assez peu concernées par ce qui va vous arriver à vous ou à moi dans notre usage du net. Donc ce sont des questions différentes. Et la coopération internationale sur ces questions est quand même extrêmement embryonnaire. Et pour cause, puisqu'un certain nombre de puissances s'en servent comme un instrument de renseignement, d'influence, de positionnement international. Donc il faut vraiment, pour le moment, pas intellectuellement investir dans l'idée qu'il y a une coopération internationale sur ces questions.
Amel Guiton.
Oui, non, mais c'est effectivement, ça c'est tout le côté d'ailleurs assez fascinant de toute la séquence américaine qu'on a vécue, c'est qu'on se rend compte effectivement à quel point l'espionnage entre les États est une pratique ancienne qui se renouvelle, dont les moyens évoluent, mais enfin qui a toujours existé. Alors ce qu'on fait des données, c'est encore autre chose, hein, mais que ça se pratique effectivement entre ennemis, entre adversaires, ça se pratique aussi entre alliés, ça c'était quand même le grand enseignement de l'affaire Snowden. Et donc effectivement, c'est des questions qui sont très compliquées sur le plan diplomatique, sachant qu'en plus ça évolue, parce qu'à une époque il y avait un dialogue compliqué et conflictuel, hein, d'ailleurs, entre les États-Unis et la Chine, hein, sur ces questions-là. Bon, il va probablement y avoir aussi des discussions avec la Russie, mais évidemment, oui, c'est-à-dire je me souviens des déclarations d'Obama au moment du G20 qui disait il faut établir des règles de bonne conduite, et puis à côté de ça, dans les coulisses, il expliquait à la presse, de toute façon c'est quand même nous qui avons le plus de capacités et offensives et défensives, et il faut que tout le monde s'en souvienne. Donc on est toujours un peu dans un... On est un peu aussi dans un théâtre.
Ah, hein, c'est l'art de la diplomatie.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais.
Daniel Ventre, l'une des conséquences du Brexit, c'est quand même l'arrivée de Theresa May. Avant d'être chef du gouvernement, Theresa May, elle était à l'origine d'une grande loi sur la surveillance. Et d'ailleurs, elle avait été surnommée par l'Association des fournisseurs d'accès à Internet la méchante de l'Internet, Theresa May. C'est comme ça qu'on l'appelait. Dans la première version du texte présenté par May, les agences de renseignement pouvaient suivre absolument n'importe qui sans même avoir besoin d'un mandat. Je crois que la version définitive a apporté quelques évolutions sur justement ce cadre de surveillance. Mais Theresa May, elle est réputée pour être, disons, assez radicale dans la question de la régulation d'Internet et la question de la cybersurveillance.
Oui, tout à fait, oui, mais je pense que là, l'orientation qui peut être prise par Theresa May, durcissement des questions de cybersurveillance, est aussi une tendance qui n'est pas uniquement britannique, et on peut le voir aux États-Unis, on peut le voir dans d'autres pays aussi. C'est une tendance qui est relativement générale, elle s'explique aussi par la difficulté qu'ont les États à lutter contre ces problématiques de cybersécurité, et puis à lutter contre tous les autres phénomènes de criminalité ou d'insécurité qui sont liés aux problématiques du cyberespace et à la difficulté à contrôler beaucoup de questions de sécurité, hein, en raison de leur relation au cyberespace. Donc je pense que cette tendance qui n'est pas propre au Royaume-Uni, et elle trouvera dans d'autres pays des partenaires, des interlocuteurs privilégiés pour soutenir ces stratégies. En fait.
Il y a une chose qui est propre quand même à la Grande-Bretagne, c'est que ces questions de cybersécurité, elles sont désormais extrêmement présentes dans le débat public, dans le paysage politique. Les partis, par exemple, ont des positionnements extrêmement clairs, extrêmement définis sur ces questions-là. Ça fait vraiment partie aujourd'hui du débat politique. Peut-être beaucoup plus qu'en France. Pourquoi, selon vous ?
Oui, alors c'est peut-être plus qu'en France, parce que disons que le débat sur la cybersécurité s'introduit dans toutes les questions politiques et électorales. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni. Je pense que ça va prendre.
C'est encore embryonnaire en France, non ?
C'est assez embryonnaire, mais on voit quand même avoir des les partis politiques commencent à avoir une présence plus forte sur les réseaux. Il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire de manière assez progressive. Et si on se retrouve avec les mêmes interrogations que celles qui ont eu lieu aux États-Unis, à savoir capacité, possibilité d'ingérence étrangère dans les processus électoraux nationaux ici ou ailleurs. Je pense que la question prendra de l'ampleur et sera plus intégrée au discours politique. Mmh. Mais il est vrai que jusqu'à maintenant, c'était quand même relativement une question marginale, même aux États-Unis d'ailleurs, et ça s'est introduit de manière assez brutale depuis 6 mois. Donc ça aussi, c'est aussi une tendance assez générale, je dirais, une orientation nouvelle du discours politique.
Éric Delbecq, Amaël Guiton. Amaël Guiton.
C'est effectivement une tendance générale. On l'a aussi vécu en France avec le débat sur la loi renseignement, me semble-t-il, où on sent quand même que toutes ces questions-là émergent. Alors,
oui, mais enfin, c'est quand même un noyau, en réalité, qui s'intéresse à ces questions. Enfin, il me semble, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment, que ça soit démocratisé. L'ensemble de l'opinion, c'est pas...
C'est vrai, et c'est d'autant plus embêtant qu'il y a des, questions qu'on sent émerger et qui demanderaient un vrai débat public, y compris d'ailleurs dans l'affrontement entre deux optiques, hein, la cybersécurité d'un côté et la cybersurveillance, par exemple. Si je prends tout le débat sur la cryptographie, on a aujourd'hui très souvent, dans pas mal de pays occidentaux, un affrontement de doctrine entre d'un côté des ministères de l'Intérieur qui disent « oui, mais nous, la cryptographie, ça nous empêche d'avancer dans les enquêtes, etc., par rapport à la menace terroriste, c'est un vrai souci », et puis de l'autre côté, les ministères de la Défense qui disent « si vous commencez à affaiblir la cryptographie ou à la remettre en cause, en fait, c'est nos propres infrastructures qu'on affaiblit. » Donc là, c'est vrai qu'on est, on est sur des questions qui devraient être travaillées par l'opinion, parce que c'est des vrais choix de société, ces affaires-là. Et pour le moment, bon, c'est vrai qu'en France, ça concerne une toute petite frange. Il y a quand même quelques parlementaires qui s'en préoccupent et qui travaillent. Il y a évidemment des associations dans la société civile qui travaillent ces questions-là. Mais ça reste un truc de spécialiste encore.
Je suis pas sûr que les deux principaux partis en France aient des programmes parfaitement clairs sur toutes ces questions.
Non, ils vont peut-être devoir s'y intéresser quand même, notamment parce qu'ils ont été convoqués il y a peu de temps, justement, par l'ANSSI pour être sensibilisés aux questions de cybersécurité à l'approche de la présidentielle. Donc sans doute vont-ils devoir s'y sensibiliser.
Éric Delbecq, peut-être rapidement, parce qu'ensuite on va retrouver un vrai hacker.
Alors rapidement, ça va être difficile, mais je crois qu'il y a des typologies à faire qui sont très importantes. Parce que par exemple, la situation dans les pays anglo-saxons, pas du tout la même que dans le nôtre. Deux, trois éléments sur les différences. Par exemple, aux États-Unis, vous avez une vraie alliance publique-privée autour de la question de la société de surveillance, pour y répondre favorablement. C'est-à-dire que l'État américain et globalement les GAFA, et j'insiste là-dessus, les GAFA nous emmènent dans la direction de la société de surveillance. Mmh. C'est un débat totalement artificiel quand on voit des GAFA soi-disant regarder l'État américain de haut en disant « vous êtes liberticide ». Ils collaborent totalement à cette problématique et là, il n'y a plus de question de public-privé. C'est vraiment une société de surveillance qui est en train de se construire. Mmh. Le paysage est encore très différent chez nous, où il faut quand même bien dire qu'on a un État qui ne partage pas l'enthousiasme de nos camarades américains pour la société de surveillance, déjà pour des raisons techniques. C'est qu'on a vu les failles du renseignement technologique américain, hein, cette espèce de quincaillerie technique qui souvent n'a servi à rien. Mais on aura le temps d'en discuter, mais tout ne correspond pas à tout.
Merci beaucoup en tout cas Daniel Vendre d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappellerai que vous êtes auteur notamment de Cyberguerre et guerre de l'information et aussi Cyberespace et acteur du cyberconflit. Les hackers ne sont pas tous des criminels, à l'inverse des pirates dont on a parlé beaucoup ce matin. On va en retrouver justement, c'est le cas de Voshula Ghost, hacker basé aux États-Unis, on n'en saura pas beaucoup plus, et qui s'est vertué à pirater les comptes Twitter de membres de l'État islamique en lieu et place de la propagande et des vidéos de décapitation, des messages de paix ou après l'attentat par exemple contre le nightclub d'Orlando le 13 juin dernier, on avait des bannières pro-LGBT, ça donnait donc des pages avec des djihadistes ou des soutiens de l'État islamique entourés de drapeaux arc-en-ciel et de bannières gay-friendly. En deux ans, il a hacké plus de 500 comptes. On retrouve Voshula Ghost, il est au micro de Clément Salazar.
En fait, nous avons commencé à nous intéresser au groupe État islamique il y a plus de deux ans, mais oui, ce n'est qu'à partir de l'attentat d'Orlando que nous nous sommes concentrés sur le soutien au mouvement LGBT. Pendant un mois, nous avons changé les images et récupéré les informations des comptes, comme la localisation ou le contact, et nous l'avons même tweeté. Et parmi les gens qui nous suivaient, certains ont pris ces informations et les ont transmises aux autorités. L'objectif, c'était d'alimenter une forme de méfiance à l'égard des réseaux sociaux parce qu'ils ne savaient pas quel allait être le prochain compte piraté. Une fois que nous étions entrés dans un compte, nous envoyons des messages aux autres membres et la plupart ne savaient pas que le compte a été piraté et que nous n'étions pas la personne qu'ils pensent. Et du coup, on leur faisait un peu la conversation. Et au dernier moment, on leur révèle notre identité, ce qui les met dans une grande confusion. Il n'y a pas besoin que d'un hack pour ne plus savoir si, quand ils reçoivent un message, cela vient du fantôme ou de leur ami.
Le but, Vautu Lagos, c'est de mettre à mal, bien sûr, la propagande terroriste en ligne, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Selon vous, le gouvernement ne la combat pas assez efficacement ?
Eh bien non, je ne pense pas. Prenons par exemple le premier article relatant nos actions et qui a fait le buzz après l'attentat d'Orlando. Eh bien, à ce moment-là, nous avions réussi un exploit qui, je crois, n'a jamais été reproduit depuis. Nous avons aussi réussi à contrecarrer la propagande extrémiste en ligne. Si on regarde ce qui s'est passé, tout ce dont on parlait dans les médias avant, cela c'était des destructions et des crimes perpétrés par l'État islamique. Alors que là, pendant un mois, le monde s'est marré à rire d'eux. Certains ont dit que c'était une action épique, je le sais parce que j'ai reçu des milliers de mails et des messages de soutien. Vous savez, le gouvernement américain essaye depuis toujours de lutter contre le hate en ligne. Je ne pense pas que cela fonctionne car jusqu'ici, je n'ai encore rien vu de concret. Nous, nous l'avons fait. Et comme je le disais, pendant un mois, le monde s'est moqué d'eux.
Vous dites que vous avez reçu beaucoup de messages de soutien. Est-ce que vous avez également reçu des menaces ?
Oui, oui, nous avons reçu notre lot de menaces, mais les menaces de soutien l'ont emporté sur le reste. Nous ne regardons même plus les menaces, en fait. Ce que nous faisons contre l'État islamique, c'est pour l'humanité, pour nos enfants. Nos objectifs sont simples. Nous voulons contrer la propagande de recrutement islamique sur le net. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que cela fait peur, parce que nous recevons beaucoup de menaces, que nous craignons que quelqu'un découvre qui nous sommes, où nous habitons. Mais on ne s'inquiète pas trop de ça, on continue.
Et vous vous sentez soutenu, protégé par le gouvernement américain, Vautu Lagos ?
Non, je ne pense pas que le gouvernement américain me protège, et d'ailleurs je ne lui fais pas confiance.
Donc vous n'avez jamais été approché par le gouvernement d'aucune façon ?
Je ne dirais pas tout à fait ça. J'ai parlé à de nombreux membres du gouvernement sur des chats cryptés comme Telegram. Ils nous ont approchés, ils se sont intéressés à nous, je leur accorde cela. Mais en termes de protection, non.
Vous employez souvent le pronom « nous », mais Vautu Lagos, ce n'est qu'une seule personne, n'est-ce pas ?
Oui, je dis toujours « nous » parce que j'inclus le collectif Anonymous.
Vous êtes un hacker et surtout peut-être un activiste avec un H ?
Oui, c'est ça. Nous sommes tous des activistes et plein d'autres choses. Mais oui, vous ne le voyez peut-être pas sur Internet, mais en coulisses, la bataille continue.
Voilà un activiste, voilà un hacker qui hack à des fins politiques, là. Pas forcément ce qu'on évoquait ce matin avec vous. Merci beaucoup, Éric Delbecq et Amaël Guiton, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappellerai vos ouvrages Hacker au cœur de la révolution numérique aux éditions Au Diable Vauvert pour vous, Amaël Guiton. Pour vous, Éric Delbecq, L'intelligence économique pour les nuls, sécurité privée, enjeux publics, paru aux éditions First. J'aurais voulu évoquer bien d'autres sujets, notamment la question du blockchain. On nous annonce une véritable nouvelle révolution numérique. Mais bon voilà, on va se la garder de côté, puis on vous réinvitera et on fera une nouvelle émission. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés ce matin. Atitude na ponta dos dedos, assim que é programado pra invadir seu PC, seu mané. Se der de mole, já era. On va retrouver un autre pirate, un pirate qu'on connaît bien, un pirate qui s'intéresse au monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
C'est vous le pirate. On parle depuis le début de la semaine de l'âge de la post-vérité. Hier, vous nous avez cité un article de Larry Penny, paru dans l'hebdomadaire de gauche britannique The New Statesman. Cette essayiste et célèbre blogueuse féministe demandait qu'on appelle un chat et que l'âge de la post-vérité soit rebaptisé franchement l'âge des foutaises, the age of bullshit.
Et oui, c'est un joli mot vulgaire, bullshit. Conneries, foutaises, foutage de gueule, baliverne. S'il y a un philosophe contemporain qui a réfléchi à ce mot, et ben c'est Harry Frankfurt qui lui a consacré un livre entier, On Bullshit, en 2005. Succès phénoménal, paru en français sous le titre de L'art de dire des conneries. Introuvable, il mériterait d'ailleurs d'être réédité. Frankfurt y distinguait clairement le menteur de ce qu'il appelle l'artiste en fumisterie. Le premier sait fort bien ce qu'est la vérité et il la viole délibérément afin de tromper son public, mais le second s'en moque. Il ne croit pas à l'existence de la vérité. Il prend appui sur des demi-vérités, des demi-mensonges pour édifier ses histoires. Il a tambouillé les limites entre les deux qu'il ne sait plus lui-même s'il ment ou s'il dit vrai. Son discours est élaboré en fonction des croyances de son interlocuteur, et de ce qu'il entend lui extorquer. Pour sa défense, l'artiste en fumisterie poussé dans ses retranchements et mis en face de ses fariboles vous déclare souvent que le système est pourri et qu'il ne fait que chercher à tirer son épingle du jeu. Bref, c'est le mensonge généralisé des élites en quelque sorte qui le contraint lui-même à mentir. Facile excuse. Frankfurt est l'un des premiers à avoir dénoncé le risque que fait courir à nos sociétés l'indifférenciation croissante de la vérité et du mensonge. Les civilisations, écrit-il, n'ont jamais connu et ne connaîtront jamais la prospérité sans disposer d'une masse d'informations factuelles fiables. Elles ne peuvent rester en bonne santé si elles sont contaminées par le virus redoutable de croyances erronées. Fin de citation. En effet, au plan individuel, je cite encore Frankfurt, nous ne pouvons agir en confiance et avec des chances raisonnables de succès que si nous disposons d'informations suffisantes. Bref, sans un accord préalable sur le sens des mots et la réalité de fait bien établi, il n'y a pas de société démocratique possible. En leur absence, ne reste plus que le recours à une autorité extérieure et surplombante, laquelle imposera ses vérités à la société en se portant garante d'une réalité dont elle réserve le pouvoir de la nommer. C'est ce qu'ont bien compris ceux qui ont pour projet de nous affaiblir, parce que nous sommes malgré tout des démocraties et qu'ils redoutent la contagion des idées démocratiques pour leur propre pouvoir.
Vous voulez parler de la guerre de l'information?
Eh oui, Peter Pomerantsev, un spécialiste de la Russie, chercheur au think tank Center for European Policy Analysis, décrit les méthodes utilisées par le pouvoir russe pour manipuler l'opinion des pays où celle-ci peut se former librement comme les nôtres. Ainsi, prenez l'affaire du vol MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur, abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine par un missile russe Buk le 17 juillet 2014. La commission d'enquête internationale qui a rendu son rapport en septembre 2016 a abouti aux mêmes conclusions que le bureau néerlandais de sécurité. Le missile a bien été tiré depuis le territoire séparatiste tenu par les Russes pro-russes en Ukraine. Mais durant les mois qui ont suivi cette bavure russe, le Kremlin a multiplié les versions alternatives. L'avion aurait été abattu par les Ukrainiens qui l'auraient pris pour un avion de combat russe. Les États-Unis l'auraient pris pour cible parce qu'ils croyaient que Poutine était à bord. Les cadavres retrouvés auraient été amenés d'ailleurs afin de tromper l'opinion mondiale, etc., etc. Comme l'explique Pomerantsev, ces opérations de tromperie institutionnelle ne cherchent pas tant à imposer une version alternative à la réalité qu'à saturer l'opinion publique en suggérant qu'il n'y a pas de vérité du tout, que tout est également fantaisiste et que chacun a bien le droit de proposer la version qui convient à ses intérêts. Et l'on retrouve, vous le voyez Florian, l'idée de post-vérité. Laurie Penny, encore elle écrit à propos de la stratégie en galerie des glaces de la Russie de Poutine, c'est son expression, une explosion de fausses nouvelles et de trolls entretenus en ligne soutient le régime, pas simplement en déversant la propagande du Kremlin, mais en faisant en sorte que les citoyens n'accordent plus une confiance entière à quoi que ce soit lu ou entendu. Bref, faire croire que tout le monde manipule la vérité est une manière de faire accréditer ses propres mensonges. Le professeur de philosophie morale australien Peter Singer revient dans un article récent sur Project Syndicate sur les fausses nouvelles à usage électoral. La liberté de parole peut-elle protéger l'introduction de mensonges délibérés ? Premier constat, à cause de l'Internet, les rumeurs les plus folles se propagent de manière virale. En outre, l'usage récent de bots, ces programmes qui relaient et répandent les messages dans le paysage narratif et sur lequel se livre dorénavant la guerre de l'information, crée l'illusion que des milliers de gens ont repris le message. Les grands médias traditionnels s'acharnent à faire du debunking, de la démystification, c'est en pure perte. Les gens ne les lisent plus, nous avons affaire à une désinformation active. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense pakistanais a menacé Israël d'une frappe nucléaire. Il avait été victime d'un faux selon lequel Israël envisageait une attaque nucléaire contre le Pakistan. Vous le voyez, les rumeurs les plus folles peuvent dorénavant déclencher des guerres.
Merci beaucoup Brice Couturier, L'âge de la post-vérité et donc cet ouvrage de l'art de dire des conneries de Frankfurt.
Il faudrait rééditer.
Merci beaucoup, on vous retrouvera bien sûr demain pour poursuivre ces pérégrinations. Mais pour l'heure sur France Culture, dans un instant, on va retrouver Olivia Gesbert et La Grande Table.